Bonjour à tous, bonjour à tous. Bienvenue pour cette première session de cette deuxième semaine de Good Morning Covid. Après cette première semaine où on avait un petit peu les fondamentaux de la psychologie, gérer ses pensées, ses émotions, trouver un sens à ce confinement, cette semaine, on va parler de fondamentaux de la vie, tout court, rien que ça. Effectivement, moi, j'ai une double formation et la biologie, pour moi, c'est juste ma religion première. Et qu'on le veuille ou non, vous allez beau avoir une chouette famille, vous allez beau avoir tout un tas de choses, s'il n'y a pas de sommeil, si on ne mange pas, si on ne rigole pas, si on ne parle pas, si on ne respire pas, rien ne pourra aller. On pourra travailler, moi je suis psychologue, donc on pourra travailler 40 séances sur votre belle-mère, et bien, ça ne changera pas grand-chose si vous ne dormez pas. Et donc aujourd'hui, commençons cette semaine sur les besoins fondamentaux, sur le sommeil. Et donc, le sommeil, dans cette période de confinement, revêt une importance beaucoup plus importante que ce qu'on pourrait penser à partir du moment où, on va dire, ben ça va, ceux qui font du télétravail, on peut se coucher plus tard, on peut se lever plus tard, c'est quelque chose de flexible. Sauf qu'on oublie que notre corps, lui, a besoin de régularité. Et dans cette période où, justement, on fait sauter beaucoup, beaucoup de repères, que ce soit des repères ne serait-ce que de spatiaux, on n'est plus au travail, on n'y retourne plus pour certains, ou des repères aussi psychologiques, puisqu'on est confiné, on a perdu vraiment beaucoup de repères en termes de comportement, mais aussi en termes d'habitude. Et bien, le sommeil, c'est à la fois une clé de voûte qui va nous tenir, mais si on fait sauter ce repère-là, d'un point de vue biologique, c'est compliqué. Notamment, bah oui, le coronavirus nous a changé le cadre de vie, mais aussi nous a changé le cadre de vie d'un point de vue mental, parce qu'il y a tout un tas de peurs, d'anxiété qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Et donc, bah, la nuit, tous les virus sont gris. Sous-entendu, il se peut qu'en plus de changer notre cadre de vie, on se couche plus tard, on se lève plus tard, on se met à ruminer, à penser à tout un tas de choses, à tout un tas de peurs que nous n'avions pas avant cette épidémie. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on va essayer de savoir un peu ce que c'est que le sommeil, comment le conserver, comment le retrouver. C'est tenté qu'avec une conférence de 20 minutes, on pouvait le faire, mais moi, je vais donner tout un tas de petits conseils. Donc, essayons de parler d'équilibre biologique. C'est quoi le sommeil? On pourrait dire le sommeil, c'est quand je dors, quand je suis allongé, que j'éteins la lumière et que mon corps se repose. C'est en partie vrai. Parce que le sommeil, c'est un petit peu comme un supermarché la nuit. On pense que le supermarché est éteint, alors qu'en fait, à l'intérieur, en fait, on réorganise les stocks, on réapprovisionne, on nettoie, on fait ça tout nickel. Et le lendemain, quand on ouvre le supermarché à 8h30, ben, on pourrait penser que ça, c'est de l'activité. Ce n'est pas tout à fait juste. En fait, le sommeil, c'est une période dans lequel le corps va réorganiser donc biologiquement, il y a le repos musculaire, le repos de la récupération, il y a une temps de réorganisation psychologique où principalement la mémoire organise tout un tas de choses. Alors, je fais des gros raccourcis, hein, je ne rentre pas dans les détails bien sûr, mais on travaille sur la mémoire, on stocke, c'est pour ça que d'ailleurs on fait des rêves et on réorganise un petit peu le contenu de la journée. Et il y a aussi une réorganisation hormonale. Parce que dans la nuit, sont sécrétées tout un tas d'hormones, notamment l'hormone de croissance ou la gréline, qui est une hormone qui est impliquée dans l'alimentation, la satiété et la faim. Il y a tout un tas d'hormones qui gèrent un peu tout le programme automatique. Et si on dort mal, ou du moins si on tape là-dedans, vous voyez bien qu'on va impacter la journée qui suit. Donc, le sommeil sert à ça. Le sommeil, c'est une période de soi-disant d'inactivité, alors qu'en fait, c'est une période d'autres activités. Donc, quand on dort, on fait quelque chose. Je dis ça pour celles et ceux qui, j'en fais partie, on pourrait penser que dormir, ça ne sert à rien, je perds mon temps, j'essaie de gratter pour essayer de me coucher plus tard, pour essayer de travailler pour ce que je n'ai pas eu le temps de faire la journée. Ben non, le sommeil, c'est une période d'activité, mais sur une autre polarité. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur le temps lundi dernier. Il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de temps perdu, il y a juste des temps différents. Donc, le sommeil, comment ça fonctionne? Il y a plusieurs phases. La première phase, on va le voir tout à l'heure, c'est la phase d'endormissement. C'est la phase dans laquelle, où, tout doucement, je passe une période d'activité, mon cerveau est en veille. voire même d'hyperactivité, pour peu que je me mette à réfléchir à tout un tas de choses angoissantes. Et petit à petit, je rentre dans la transition, un peu comme le coucher du soleil, ou avec une sorte de gradient. Je rentre dans des phases de sommeil, et le sommeil n'est pas uniforme. Encore une fois, je vais assez vite, hein, mais le sommeil est... Il y a deux phases. Une phase de sommeil profond, où là, notre corps est lourd, très compliqué à réveiller dans ces moments-là, et des phases de sommeil paradoxal. Paradoxal, parce que c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, on pourrait penser que je dors, alors qu'en fait, mon cerveau est en grande activité. Et donc, c'est dans ces moments-là que je fais... On a des rêves, c'est dans ce moment-là où on observe des mouvements rapides des yeux. On se rend compte que l'œil se met à bouger de manière très rapide. Et c'est dans ces périodes-là, en général, que le rêve ou que la mémoire se réorganise. Nous avons donc ces deux phases-là et le réveil. Et en fait, vous observez qu'on ne décide pas grand-chose là-dedans. Effectivement, est-ce qu'on décide quand est-ce qu'on a sommeil ? Pas vraiment. Est-ce qu'on décide de nos phases de sommeil paradoxal et sa phase de sommeil profond ? Non plus. Et est-ce qu'on décide de notre réveil ? On va dire oui, avec les rayons réveil, certes, mais normalement, c'est quelque chose qui se fait automatiquement. Et ça, depuis des millions d'années. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le sommeil, c'est un truc avec lequel on ne rigole pas. C'est un truc sous-cortical, c'est-à-dire que c'est géré vraiment par le cerveau du dessous, qui va gérer la majeure partie de ce dont on va parler cette semaine, hein. Dormir, manger, respirer, tout ce qui est besoin fondamental, comme faire l'amour, se reproduire, etc. Pas faire l'amour, se reproduire plutôt. Et donc, ça, c'est le programme profond. Et quand on touche là-dedans, certains déséquilibres peuvent se produire. Et c'est ce cas qu'on appelle les troubles du sommeil. Alors, c'est quoi un trouble du sommeil ? C'est là où on va essayer de voir un petit peu plus clair. La première chose, c'est qu'un trouble du sommeil, ça s'évalue par sa répercussion sur sa qualité de vie. C'est à partir du moment où mon sommeil ne me permet plus d'avoir une qualité de vie adéquate, c'est-à-dire que je suis fatigué et j'arrive plus à accomplir ma journée. Donc, si vous dormez 6 heures par nuit, si vous couchez tard, vous levez tôt, enfin, peu importe, mais que vous n'avez aucun impact sur votre qualité de vie, le trouble du sommeil, on pourrait parler de perturbation du sommeil, mais ce n'est pas un trouble de sommeil à part de vie, puisque vous arrivez à fonctionner normalement. Et dans ces troubles du sommeil, on pourrait en différencier deux. Le premier, c'est ce qu'on appelle un trouble de sommeil primaire. Primaire parce que ce n'est pas associé à une autre problématique. On va voir ensemble ce que sont les problématiques. C'est principalement lié à une perte d'habitude. Et c'est un petit peu le cas, ça pourrait être le cas en ce moment avec cet épisode de confinement, perte d'habitude, je me mets à me coucher tard, je me lève plus tard, ou je me mets à faire la sieste, ou je me mets un peu à perturber ces habitudes de sommeil qui étaient jusque-là assez ancrées et invariables. Et je me mets en perturbant et peut-être un peu plus fatigué la journée. Et à partir du moment où je suis fatigué, commence à apparaître le besoin de se reposer. Et à partir du moment où j'ai besoin de me reposer, j'ai aussi besoin d'être performant dans la journée, peut-être que l'accent sur le sommeil va s'accroître. Et à partir du moment où je commence à vouloir dormir et à me mettre la pression pour dormir, vous observez que ça devient beaucoup plus compliqué de dormir. Et on va le voir juste dans le comment retrouver ses habitudes. Plus je voudrais dormir, et peut-être plus le sommeil va s'enfuir. Donc ça, ce qu'on appelle les troubles du sommeil primaire, c'est quand je modifie mes habitudes. Alors ça peut être le cas, alors, pas forcément entre le coronavirus en ce moment, mais quand on a une maman qui a un enfant ou les parents qui ont un enfant puis qui se mettent à se lever assez régulièrement la nuit, ces perturbations comme ça, mécaniques, ne sont pas anormales en soi, mais qui finalement perturbent suffisamment les habitudes pour que le sommeil puisse être déséquilibré. Ce qu'on appelle un trouble de sommeil secondaire, c'est un trouble qui va être associé à des problèmes comme l'anxiété, comme la dépression, comme... les syndromes d'amnésie sommeil, ça c'est des choses qui sont beaucoup plus ancrées, mais et c'est un peu le cas avec cette histoire de coronavirus, c'est que plus je deviens anxieux vis-à-vis de la vie, et forcément le sommeil ne va pas prendre beaucoup de place, pour la bonne et simple raison que, alors, peut-être ferai-je une session là-dessus sur les deux grands canaux électriques avec lesquels nous sommes câblés, le système sympathique, c'est un c'est le canal de l'urgence, celui avec lequel il va gérer tout ce qui est l'urgence, faire face au danger et se défendre. Et il y a un autre canal qui, lui, génère plutôt de la récupération, plutôt du calme, plutôt de la régénération cellulaire, le sommeil, l'alimentation, etc. Et dans les moments d'anxiété, le système sympathique est hyperactivé. Et quand j'ai peur, imaginons, depuis un demi-million d'années, quand j'ai peur de me faire croquer par un lion, c'est sûr que je ne vais quand même pas dormir sur mes deux oreilles, comme on a l'habitude de penser. Non, je reste dans une hyperactivité permanente qui m'éloigne du sommeil. Et donc, ce qu'on appelle un trouble du sommeil secondaire, c'est quand cette anxiété plafonne et empêche le sommeil de prendre cette place. Voilà donc ce que sont ces deux particularités, ces deux polarités des troubles du sommeil primaire, perte d'habitude, perte de repère, comme on pourrait l'être actuellement avec le coronavirus. On se met peut-être à faire des siestes d'une heure la journée, une heure et demie, et puis là, le soir, on est moins fatigué. Ou l'inverse, on se couche tard et on est fatigué tout autant. La question que vous allez me poser, c'est « Ok, c'est bien beau tout ça, on sait ce que c'est que le sommeil, on sait pourquoi c'est important, on sait ce que ça produit. » Et bien, maintenant, c'est comment on le retrouve. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que voilà, il y a vraiment quelque chose aussi de biologique. Et on a pu corréler dans le trouble du sommeil tout ce qui est prise de poids, tout ce qui est aussi problème de santé mentale, dans le sens où, maintenant, ce problème de santé, le problème de sommeil primaire, de perte d'habitude, quand je dors moins, je suis fatigué, je deviens grognon, je suis moins satisfait de ma journée, du coup, je dors moins, je suis plus grognon. Ça aussi, ça peut conduire à des troubles de sommeil secondaire, ça peut conduire à de l'anxiété. Et moi, si je dors mal, le lendemain matin, je suis beaucoup plus grognon. Heureusement, je vais dormir cette nuit, donc ça se passe bien. Et heureusement, plutôt malheureusement, si je me mets à mal dormir, mais forcément, les nouvelles sur le coronavirus, je vais les prendre d'une manière beaucoup plus directe et je serai beaucoup moins protégé pour pouvoir les trier. Non, je vais tout prendre au premier degré. Donc, en ce moment, le sommeil, c'est donc une clé de voûte. Alors, comment on le retrouve? Bon, alors, tout de suite, plus vous chercherez à l'avoir, moins vous l'aurez. Ça, c'est une base. Et je crois que c'est une base même dans tout ce qu'on va voir ensemble dans ces Good Morning Covid du matin. Plus je cherche à ne pas penser à l'effort rose, plus j'y pense, plus je cherche à calmer ma peur et finalement, plus elle me revient, et plus je veux dormir, moins je dors. Et pour cause, si je me mets à réfléchir, vous dites « il faut que je dorme », vous observez que le « il faut que » me met, c'est une sorte d'injonction. C'est comme « il ne faut pas que je pense à l'éléphant rose », ou « il ne faut pas que je pense à la belle-mère nue », l'exercice de la semaine dernière. Mais c'est aussi le « il faut que » me place la peur d'une conséquence négative. « Il faut que sinon », »,« il faut que je dorme sinon ». Et bien, vous observez que ce « sinon-là », si ça ne génère pas une crainte ou de la peur, vous observez que ça va activer mon système sympathique et ça m'éloigne encore plus du sommeil. Donc, c'est quand je me dis « il faut que je dorme », j'active mon cerveau là où il faudrait que je le laisse aller un peu tout seul. Donc, chose très paradoxale, on va essayer d'apprendre à ne pas vouloir le sommeil. Le sommeil, c'est un petit peu comme un ami qu'on va chercher à inviter. On ne peut pas le forcer à venir chez nous, on ne peut pas aller le chercher. Non, on l'invite, on crée les conditions pour que cet ami vienne se loger au fond de nous. Et la première chose, c'est observons les enfants, le petit train du sommeil. Le petit train du sommeil, ce sont tout un tas d'habitudes qui vont m'amener dans des dispositions qui vont faire en sorte que, peu à peu, clac, je vais embrayer comme une sorte de... Comme si je mettais le doigt dans un engrenage qui m'amène dans les bras de Morphée. Donc, ce qu'on appelle le petit trait du sommeil, c'est comment on va apprendre à se donner tout un tas d'habitudes qui vont me permettre de rentrer dans le sommeil. Comment ça se passe? Tout d'abord, c'est ritualisons tout un tas de choses. Par exemple, le soir, quand on se couche, essayons d'avoir de la régularité. Cette régularité qui va me permettre d'envoyer un des signaux à mon corps. C'est cette même régularité qui fait que quand on va manger, et ça peut paraître bizarre, mais midi, la cloche, la table, s'asseoir, les odeurs, sont tout un tas de signaux qui... C'est un réflexe conditionné qui envoie un signal à mon corps comme quoi ça va être l'heure de manger. Et donc, mon corps commence à produire tout un tas de de signaux et d'hormones pour pouvoir manger. Ben là, c'est pareil avec le sommeil. Plus je vais donner de la régularité, donc ça va être le soir avec un coucher régulier, ça peut être brosser les dents, mettre son pyjama, des choses très, très régulières. Et puis, ça va être aussi mettre son cerveau dans de bonnes conditions. Déjà, éviter de boire du café, éviter de manger donc avant de dormir, et donc après 16-17 heures, éviter de prendre des excitants. Ça va être éviter les écrans. Oui, parce que la lumière bleue des écrans active de manière très importante le cortex visuel, celui qui est logé derrière notre crâne. Et s'il active, ça m'éloigne du sommeil. Donc, les lumières bleues, les écrans, le téléphone, etc., 20 minutes avant, on essaie de les couper. Mais aussi éviter de regarder lemonde.fr ou d'aller sur Facebook juste avant de vous dormir, parce que sans s'en rendre compte, en fait, votre cerveau prend des infos et ça active le cerveau du dessous qui, lui, a peur d'une menace. Donc, quand on se prépare à recevoir un bon ami comme le sommeil, ben on ritualise les choses. On se met peut-être une musique douce, une lumière douce. Et puis, on essaie aussi de permettre que sa chambre soit plus fraîche. Parce que l'abaissement de la température va activer cette entrée en sommeil. Alors que la chaleur, elle, active la circulation cardiaque et augmente l'activité du corps. Voilà pour ce qu'est le petit train du sommeil. Et normalement, si on ritualise, si on a toujours le même signe, on se couche à des heures régulières et on se lève à heures régulières, plus on a de la régularité, plus on prépare notre cerveau, et ben, si on va voir apparaître des signes, des signaux, des bâillements, de la fatigue. Et c'est très important de les respecter, ces signaux, et d'aller se coucher. Pour la bonne et simple raison que c'est ça le petit train du sommeil. C'est à ce moment-là, mon cerveau serait prêt à et ben, le faire entrer. Et si on laisse passer ce petit train, et ben, on repart pour un prochain cycle, et ça peut être une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Et donc, ça ne sert à rien d'aller se coucher, de forcer d'aller se coucher quand on n'a pas eu ces signaux. C'est comme si je vous forçais à manger une choucroute à 10 heures. Force est de constater que ça va être compliqué pour vous de la digérer. Voilà pour ce qu'est l'hygiène du sommeil avant. Après, il y a une hygiène du sommeil pendant le sommeil. C'est-à-dire que on voit bien que quand on se réveille la nuit, il y a tout un tas de choses que l'on fait qui nous éloignent de la reprise. Ben, une des choses, c'est que quand on s'endort, quand on se réveille par la suite, au bout de 20 minutes de tournage en rond dans votre lit, au bout de 20 minutes, on se lève. On se lève pour éviter effectivement d'activer mon cerveau. Je vois bien que si je me mets à ruminer, il est impossible que je retrouve l'entrée dans la porte du sommeil. Donc, on se lève. Et là, on fait la même chose. On recrée un petit train du sommeil. On lit, on essaie de créer des activités qui sont plutôt centré sur soi, sur l'intériorité, on lit, on tricote, pas la télé, pas les écrans bleus. Vous voyez, s'endormir devant la télé, c'est comme si finalement vous éteignez l'âme. C'est comme si vous mettrez votre ordinateur en veille, mais continuez de tourner. Et je sais que c'est divinement bien, mais c'est une sorte de piège, la télé. Donc on se lève et on essaie de faire des activités calmes jusqu'à ce que le petit train de sommeil se repointe. Et quand on a les signes de sommeil, on se recouche. Et le lit doit aussi être réservé aux activités qui lui sont liées. Alors, dormir, certes, faire l'amour, certes, mais éviter de travailler dans le lit. Encore une fois, le sommeil, c'est quelque chose qui, 400, 500 millions d'années d'évolution de notre cerveau, petit à petit, a des régularités. Et si on commence à associer lit et travail, ben, clairement, mon cerveau, quand il se met dans son lit, il se met à réfléchir en boulot. Ça, c'est l'hygiène. Se coucher, c'est l'hygiène pour se rendormir. Le matin, on essaie de se donner des horaires de sommeil assez. Des horaires de réveil très fixes. Et la journée, on va parler maintenant de ce qu'on appelle la restriction de sommeil. Une façon de retrouver le sommeil, ça reste de le restreindre. Effectivement, si on se met à dormir la journée, une heure et demie, bah forcément, quand j'arrive le soir, j'ai moins envie de dormir. C'est comme si je me fais un gros goûter à 16 heures. Ben forcément, à 19h, je n'ai pas faim. Là, c'est de la même manière. Donc, la sieste, c'est 20 minutes, tout au plus. Et on évite le lit à ce moment-là. C'est notre meilleur ami pour 20 minutes, mais pas plus. Et une autre technique pour retrouver le sommeil, ça reste la restriction, c'est-à-dire de se coucher plus tard, le plus tardivement, pour essayer de déclencher un peu ce réflexe d'endormissement avec un lever toujours la même heure. Alors, c'est un peu dur au difficile, c'est un peu dur au début, hein, de se coucher peut-être à 2 h du matin et de se lever à 6 h. Mais globalement, ça va activer une sorte de faim qui fait que le jour d'après, peut-être que ces moments de fatigue vont devenir un peu plus saillants. Encore une fois, ce n'est pas une méthode magique, puisque plus on va le vouloir, moins on l'aura, mais dites-vous que c'est comme une forme d'hygiène. Quand on accueille un bon ami, il ne va peut-être pas venir, mais on se donne le maximum de chances qu'il arrive. Mais j'entends certainement votre tête vous dire oui, mais c'est simple, oui, mais c'est facile. Oui, mais, oui, mais, oui, mais. Oui, mais il faut que je dois observer, observer qu'il y a tout un tas de pensées qui se pointent également. Et effectivement, Onis Wikimal y pense. Notre mode de pensée n'est pas forcément notre meilleur ami dans le sommeil. Ça, nous l'avons vu la semaine dernière. Alors, je ne vais pas faire une session complète là-dessus, mais essayons d'observer que tout ce qu'on se raconte sur le sommeil est aussi notre principal ennemi. C'est le monsieur et madame relou de la semaine dernière qui, plus je cherche à réfléchir au sommeil, plus finalement je m'en éloigne. Et donc, déjà, un premier petit exercice, c'est de considérer dire, ah, tiens, là, monsieur et madame relou. C'est-à-dire ces deux pensées qui cherchent à, ces deux personnages qui cherchent à mettre la pression. On peut simplement remarquer à ce moment-là de quelle manière ces pensées nous éloignent. Et juste remarquer, dire, ah, tiens, là, j'ai une pensée qui ne va pas m'aider pour le sommeil. Ça peut déjà permettre de décoller. Et donc, apprendre à retrouver le sommeil, c'est apprendre à aussi à prendre ses pensées avec distance. Apprendre à observer les choses, ce que ma tête me raconte, comme des nuages qui circulent. Alors, je vais pas vous donner un exercice tout de suite, mais vous trouverez certainement des méditations sur Internet, la méditation des nuages, la méditation des feuilles de Christophe André, qui peuvent vous aider à prendre vos pensées avec distance. C'est-à-dire, juste observer que votre tête se met à réfléchir, mais vous n'êtes pas obligé de réfléchir avec elle. Une autre façon de prendre la distance avec ses pensées, c'est de regarder ailleurs. Effectivement, si je regarde à droite, je ne peux pas regarder à gauche en même temps. Et une façon de se centrer sur ses ressentis corporels, juste se centrer sur son souffle. Encore une fois, si c'est pour se centrer sur son souffle pour dormir, c'est plus compliqué, mais juste prendre plaisir à respirer, prendre plaisir à prendre conscience du contact de son corps dans le lit. Ça permet pendant ce temps-là de moins se concentrer sur ses pensées et de faire apparaître les prémices du sommeil pour la bonne et simple raison que lorsqu'on se concentre sur soi, mon cerveau produit ce qu'on appelle des ondes alpha. Les ondes alpha, c'est les prémices un petit peu du sommeil. Et donc, se centrer sur soi, sur ce que je ressens, sur ce que j'entends, ça me permet de moins penser. Il y a des applications type Petite Bambou ou des applications de méditation qui peuvent vous aider. En tout état de cause, si on résume, le sommeil, c'est une pierre angulaire de notre vie quotidienne et de notre bon fonctionnement. Bon, plus on s'occupe de cette pierre, moins ça fonctionne, c'est vraiment paradoxal. Mais disons que si on apprend à mettre de la régularité, à éviter de faire des erreurs qui peuvent nous paraître anodines comme ça, se coucher à l'heure et à se lever à l'heure, éviter les écrans, les infos désagréables, éviter la sieste trop, se lever 20 minutes et puis faire des activités calmes. Ce sont tout un tas de bonnes habitudes qui vont nous permettre de maintenir les pieds sur terre et de traverser cette période-là de manière plus simple. Donc, j'arrive au terme de cette session sur le sommeil, et on pourrait encore en dire très long, très long. Mais je vais m'arrêter pour l'instant pour retrouver ces détails sur l'article de mon blog, eolpsy.fr. Je vous donne rendez-vous demain, où on va parler d'alimentation. Alors, on ne va pas parler de ce qu'on met dans l'assiette, mais on va plutôt parler, une fois de plus, du rapport qu'on a à notre alimentation. Et bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée à vous. Et puis, écoutez, je vous souhaiterais bien une bonne nuit.